BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
Ah, la flamme olympique arrive demain en France, à Marseille, mais nous, on est l'émission qui garde la flamme. Chaque jour, le feu sacré de la bourse, les pulsations du monde sont dans BFM Bourse, 15h30, 18h, et cette flamme-là ne s'éteint jamais, puisqu'après le direct, vous nous retrouvez bien sûr en replay et podcast, vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à le faire, et on vous remercie, nouveau record de téléchargement de replay et podcast pour BFM Bourse au mois d'avril, plus de 130% de progression sur un an. Voilà, un immense merci à vous tous qui nous êtes de plus en plus fidèles. Les marchés aujourd'hui, bah, ils sont en forme aussi, en mode ascension cette semaine, décidément. Étienne Brack est avec nous depuis la Tour Euronext. Étienne, c'est encore une belle séance sur le marché parisien.
Avec un CAC 40 qui est sur des plus hauts d'une semaine, au-delà des 8000 points, 8052 points, c'est une hausse de 0,7%, du vert également à Wall Street, sauf pour le Nasdaq qui est légèrement dans le rouge. Une belle séance, une nouvelle fois à la Bourse de Paris, avec le marché qui est rassuré, avec l'espoir de baisse de taux, et surtout le fait qu'il n'y ait pas de hausse de taux prévue par la Fed.
Effectivement, puis un bon chiffre ici en Europe, les ventes au détail en zone euro progressent un peu plus que prévu au mois de mars de 0,8%, ce qui confirme cette petite reprise européenne. Les publications, elles aussi, encourageantes, notamment dans le secteur financier. UniCredit gagne 2% aujourd'hui, UBS gagne 8%, UBS qui renoue avec les bénéfices pour la première fois depuis le rachat de Crédit Suisse. On a là un secteur qui continue de performer, on a aussi le retour des small et mid-cap, hein, sur un mois, le CAC small progresse beaucoup plus que le CAC 40. On est à plus 2,5% sur le CAC small, alors que le CAC lui perd 1,5%. C'est quand même intéressant. Est-ce qu'on a là un vrai signal de retour pour les small et mid-cap? On va poser la question à nos experts. On parlera cognac, évidemment, aussi, puisque c'est la thématique du jour sur les marchés, l'effervescence dans le cognac. Après la visite de Xi Jinping, Rémi Cointreau et Pernod Ricard progressent bien aujourd'hui, puis donne du sport à ton corps. N'hésite pas. Avec ce soir un match de foot à ne pas rater, bien sûr. PSG Dortmund, le match retour de la Ligue des Champions en demi-finale. Et il se trouve que le titre Dortmund, Borussia Dortmund, qui est coté à Francfort, le club de foot, a bien progressé depuis le match aller où Dortmund avait gagné contre le PSG. Le titre avait gagné 5%. Bah aujourd'hui, on voit un peu plus de doute dans le marché. À quelques heures du match retour au Parc des Princes, le titre Borussia Dortmund à Francfort en direct perd 0,5%. Oui, on est à vos côtés, on joue dans votre camp. Bienvenue à tous.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
La bourse est très mauvaise pour prédire les performances boursières, donc il faut absolument attacher aucune importance à cette petite baisse aujourd'hui, cette petite reprise de souffle du titre Borussia Dortmund, mais quand même, à quelques heures du match retour, on est content de voir le titre reculer un petit peu. C'est peut-être bon signe. Enfin bon, voilà, boursièrement, il y a rarement de la véritable prédictabilité dans les cours de bourse par rapport aux performances sportives. Mais enfin, on va quand même répéter que le Borussia Dortmund en bourse aujourd'hui est en train de perdre du terrain. Et du côté des marchés en Europe, ailleurs et sur le DAX aussi, où est coté le Borussia Dortmund, on est en hausse à Francfort, à Paris, Étienne. C'est encore une belle séance qu'on est en train de vivre. Aux États-Unis également, on est dans le vert.
En effet, avec un CAC 40 qui enchaîne aujourd'hui sa troisième séance dans le vert, au-delà des 8000 points, 8060 points, sur des plus hauts d'une semaine. Alors certes, les volumes d'échange sont absents, mais vous avez en tâche de fond, eh bien, un moral qui revient un petit peu, des résultats d'entreprise. On est vraiment sur la dernière note qui montre que la saison a été solide. La semaine dernière, Jérôme Powell qui a exclu à court terme une hausse de taux. Un marché qui se demande si finalement il n'y aura pas plus qu'une baisse de taux, hein. Donc suite à cela, eh bien, vous avez un nouveau scénario qui voit le jour, qui entraîne l'obligataire à la baisse, avec notamment un 10 ans américain qui est à 4,44. Il perd 5 points de base, alors que rappelez-vous, il était encore à 4,7% il y a une semaine. Donc tout ça, c'est bon pour les valeurs de croissance. Vous avez Dassault Systèmes qui prend plus de 2%, vous avez ici l'or qui prend 1,8%, le secteur bancaire dans le sillage, vous avez souligné notamment de UniCredit et de UBS qui est en forte hausse à Paris, à l'image de Société Générale qui prend 2,5% à 24,81, ou encore BNP qui prend 1,8% à 69,49. Le secteur bancaire, quand vous regardez l'Eurostock Bank, qui gagne 40% désormais en l'espace d'un an. STM, plus forte hausse aujourd'hui de l'indice parisien, avec une hausse de 2,8% à 38,27. Dans le sillage de Infineon qui a annoncé un gros programme de réduction des coûts. Donc ça plaît au marché. Et donc, vous avez le marché qui espère que STM va suivre la même direction. À l'inverse, c'est plus compliqué pour Arcelor qui avait fait la semaine dernière une très belle semaine. Et là, quelques prises de bénéfices, moins 2%. 1% à 23,82. Le tout donc dans une tendance positive avec un CAC 40 qui est quasiment sur les plus hauts niveaux de la séance, plus 0,7% à 8050 points.
Adrien Henry est avec nous depuis les bureaux de Kepler. Bonjour Adrien. On est ravi de retrouver la plus forte hausse, c'est ST Microelectronics dans le sillage d'Infineon qui a publié ses résultats. On a eu beaucoup de déceptions de la part d'Infineon. Depuis le début d'année, le titre perdait plus de 15%. Aujourd'hui, c'est une belle hausse. Est-ce que la publication est si convaincante et si porteuse aussi en filigrane pour notre champion français STM?
Ben non, c'est paradoxal. Effectivement, la publication est mauvaise. Ils ont averti sur leur résultat 2023-2024 avec une baisse des ventes plus importante que prévu, notamment tirée par le bas par l'activité automobile, hein, avec le ralentissement de la demande sur les véhicules électriques. Donc tout ça est assez négatif et donc très paradoxal par rapport à cette forte hausse. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On se rend compte que les investisseurs ont plutôt anticipé, largement anticipé, parce que STM avait déjà averti sur ses objectifs le mois dernier. Donc en gros, finalement plus de crainte que de mal. Et donc en fait, la nette hausse du titre aujourd'hui montre bien effectivement qu'il y avait une anticipation et pas mal de craintes, et qu'en fait le point bas au niveau de l'activité des semi-conducteurs, hein, parce que l'ensemble des semi-conducteurs ont plutôt déçu, hein, STM, Soitec, on connaît effectivement les déceptions récentes et les avertissements, et donc le point bas serait passé effectivement sur le trimestre qui vient de s'écouler, et donc effectivement le secteur des semi-conducteurs est fortement anticipé, c'est-à-dire qu'il faut toujours en avoir avant la matérialisation du point bas de l'activité, parce que sinon ça rebondit très rapidement, et donc manquer les points bas à ce moment-là.
STM aujourd'hui en tête du CAC 40, mais un secteur fait encore un peu mieux. On est dans l'univers du cognac, ce qui fera plaisir à Étienne Braque, qui a des attaches dans cette région de cognac, effectivement. Parce que, peut-être, les cognacs en Chine ne seront-ils pas taxés? Voilà, c'est l'espoir, en tout cas, après les propos dans le sens d'Emmanuel Macron hier, à l'occasion de la visite de Xi Jinping. Peut-être pas de taxes à venir en Chine sur les cognacs français. On verra, Rémy Cointreau gagne 4,5%, presque deux fois plus que Pernod Ricard. Est-ce que vous comprenez que ce soit Rémy Cointreau qui en profite davantage aujourd'hui que Pernod Ricard en bourse?
Alors tout d'abord, il faut pas céder à l'effervescence des produits, hein. Faut pas céder trop. En gros, l'idée c'est que, en fait, ce qu'il a été dit par le président Macron, c'est qu'en gros, il y aurait pas de taxes douanières avant les résultats de l'enquête qui est en cours en Chine. Donc c'est l'organisation qui est liée au ministère du Commerce qui s'occupe de ça, sur le dumping des prix que les acteurs européens feraient sur le marché chinois. Donc là, pour l'instant, ça veut pas dire qu'il y aura pas d'enquête, que l'enquête s'arrête là. Mais ça va dans le bon sens, parce qu'en tout cas, il n'y aura pas de taxe douanière supplémentaire jusqu'à ce qu'il y ait le rendu de cette enquête. Donc, plutôt positif, d'où la réaction du marché. Et pourquoi est-ce qu'en fait, Rémy Cointreau augmente plus que Pernod Ricard? C'est très simple. Pernod Ricard est exposé au brandy et au cognac par Martel. C'est environ 10% de son chiffre d'affaires en Chine. Mais Rémy Cointreau, c'est trois fois plus. C'est 30% du chiffre d'affaires, en fait, de Rémy Cointreau qui est réalisé dans ce type de spiritueux en Chine. Et donc, effectivement, c'est assez normal, finalement, d'avoir un titre qui progresse plus. Hein. Je vous rappelle que quand il y avait eu l'annonce de l'enquête, Rémy Cointreau avait perdu près de 20%, alors que Pernod Ricard était resté entre 5 et 7 de baisse à ce moment-là. Donc voilà, la réponse est logique, à l'envers.
Adrien, vous restez avec nous, on continue de parcourir la cote dans un instant ensemble. On parlera notamment de Bouygues, mais d'abord, Étienne nous rappelle, depuis la Tour Euronext, Étienne, une autre valeur que vous avez repérée, le titre Adecco.
Adecco à Zurich, environ 5 milliards de valorisation boursière. Léger recul aujourd'hui suite à la publication des résultats trimestriels avec un titre qui perd 0,8% à 32 francs suisses, avec un groupe qui est très cyclique. Hein. Pour rappel, on est dans l'emploi temporaire avec à la sortie des confinements une dynamique qui avait été très forte. Et puis là, forcément, eh bien, comme l'activité ralentit, eh bien, ça se voit dans les résultats. Alors autant le chiffre d'affaires est stable, mais le bénéfice, lui, se replie de plus de 20%. Néanmoins, vous avez une grosse discipline en termes de coûts. Hein. C'est vraiment les coûts, c'est présent dans tous les résultats trimestriels. On parlait d'Infineon à l'instant, mais là, vous avez un groupe qui explique par A plus B qu'ils ont réduit les coûts de plus de 12% par rapport à l'année dernière, qui vise 15% cette année, qui est confiant à moyen long terme. À court terme, ça reste compliqué, avec notamment la France, hein, son premier pays, où ça cale en termes d'emploi, hein, notamment dans plusieurs zones, dans plusieurs métiers, hein, à commencer notamment par le bâtiment, le secteur de la construction, et puis aussi aussi eh bien, dans l'industrie. Le groupe remarque que c'est un ralentissement marqué dans l'industrie en France. Donc forcément, par rapport à cela, l'activité au deuxième trimestre sera atone comme au premier trimestre. Mais ils s'attendent à un redémarrage dans la deuxième partie de l'année. Le marché avait largement anticipé tout cela. Et désormais, le titre perd un peu plus de 20% depuis le début de l'année.
Effectivement, ça avait été largement anticipé. Et cette économie réelle, le terrain économique, il se reflète vraiment dans ce que nous disent aujourd'hui les entreprises. Adecco, par exemple, ce net ralentissement qui se confirme, vous le disiez, Étienne, dans le bâtiment. Et on le voit aussi dans la publication de Bouygues, par exemple. Bouygues qui a publié ses résultats. Dans l'immobilier, c'est pas bon. Alors, dans l'énergie, c'est mieux, mais ça ne compense pas. Et le marché sanctionne Bouygues aujourd'hui. Adrien, le titre perd plus d'1,2% à la Bourse de Paris.
Oui, tout à fait, Guillaume. Hein. Le côté e-commerce, que l'activité à racheter est plutôt positif. Donc ça, c'était bien vu. La construction a fait un bon trimestre, avec des chiffres au-dessus des attentes, mais les prises de commandes ont décéléré par rapport au trimestre précédent, donc en rythme séquentiel. Et surtout, c'est la division télécom qui déçoit avec une faible dynamique commerciale, que ce soit dans les réseaux fixes ou dans les réseaux mobiles, hein, au niveau des forfaits. Donc je vous rappelle, hein, cette division télécom, elle est très importante, parce que si elle fait un chiffre d'affaires qui représente que 15% du CA du groupe, au global, elle fait quasiment un tiers de la rentabilité. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est à garder, et donc quand les télécoms déçoivent, effectivement, ça a un potentiel impact. Et au global, finalement, on voit ça, parce que le groupe a fait un chiffre d'affaires mieux que prévu au niveau des ventes, mais la rentabilité est moins bien et déçoit. Donc nous, on voit deux dangers sur le titre. On trouve que le cours de bourse actuel reflète un scénario plutôt favorable pour 2024. Et finalement, on voit que cette publication qui est globalement assez neutre est vue négativement par le marché. Oui. Et donc, en fait, le marché anticipe notamment un scénario favorable qui passerait par une expansion, une amélioration des marges pour 2024. Donc si jamais ça n'arrive pas, il y a déception potentielle. Et le deuxième danger, c'est que la valorisation, en ce moment, on ne la trouve pas attractive, notamment par rapport aux différents secteurs concernés dans les différents sous-segments, que ce soit Vinci ou FH qui traitent sur des niveaux similaires à Bouygues et qui devraient bénéficier d'une prime à cause de leur activité de concession, ou que ce soit dans les constructions traditionnelles où Bouygues, en général, se traite avec une prime de près de 15% par rapport à cette part.
Merci Adrien. Adrien Henry, pas très chaud hein, sur Bouygues, on l'a bien compris, effectivement, avec beaucoup d'arguments que vous pourrez retrouver en replay d'ailleurs dans quelques minutes et en podcast. Adrien Henry, les équipes de Kepler régulièrement à nos côtés. Puis on parlait aussi de Disney tout à l'heure avec John Plassard. Les prévisions en matière de streaming de la part de Disney douchent le marché. Le titre Disney à Wall Street est en ce moment même à quelle heure là ? 10h16 aux États-Unis à New York. Il est en baisse, ce titre, de plus de 8%. Et l'argumentaire de John, l'explication et l'analyse de John Plassard et ses équipes chez Mirabeau, à retrouver en replay également sur notre application BFM Business. Vous allez dans BFM Bourse et vous allez dans le replay de USA Today. C'était à 15h30 pour l'ouverture de Wall Street. Une idée de valeur en plus pour compléter vos portefeuilles. Guillaume Dolici nous appelle Via AM. C'est le nom de sa société de gestion. Bonjour Guillaume. Vous êtes le président de Via AM. Vous êtes positif aujourd'hui sur le titre Edenred qui quand même n'a cessé de sous-performer ces derniers mois, mais vous estimez qu'il y a peut-être un bon timing maintenant pour les investisseurs sur ce titre Edenred.
Oui, absolument, Guillaume. On va parler donc d'Edenred qui perd environ 20% sur un an contre une hausse de plus de 10% pour l'indice européen dividende réinvesti. Donc après la forte hausse des marchés des 18 derniers mois, il est justement difficile de trouver des bonnes affaires sur le segment des grandes capitalisations. Et on a peut-être quelque chose avec Edenred.
Edenred, stop pour la baisse, pensez qu'elle arrive désormais à son terme, ou malgré tout, vous pensez qu'il va falloir se repositionner au futur, une fois qu'on aura touché le point bas, mais que ce point bas est peut-être encore un petit peu devant nous. Comment est-ce que vous voyez l'évolution à venir à très court terme pour Edenred ?
Alors écoutez, à très court terme, je n'en sais rien, mais à plus moyen long terme, clairement, Edenred fait partie des quelques valeurs européennes de qualité avec plus de 10 milliards d'euros de capitalisation boursière et qui se paye sur des multiples d'évaluation qui sont attractifs. Après la baisse récente, le titre traite sur un PER économique d'environ 13 fois contre 15 fois pour les indices actions européens. Et dans le même temps, l'entreprise délivre une rentabilité économique de plus de 30% contre 16% pour le marché. Alors, lorsque l'on observe ce type de décote, il y a souvent un problème de croissance. Alors, les dernières publications d'entreprises ont été positives, avec notamment un résultat opérationnel en hausse de plus de 15% au premier trimestre 2024. Et en bonus, l'action offre environ 2,4% de rendement de dividendes.
Alors pourquoi pas Edenred, effectivement, d'autant qu'on est dans une phase de marché où marché rachète, c'est mal aimé. Voilà, il y a beaucoup de valeurs mal aimées du marché qui parviennent en ce moment à remonter la pente, à rebondir. On verra si ce sera le cas effectivement d'Edenred. En tout cas, votre conviction est positive et à l'achat sur cette valeur. Vous êtes un gérant quantitatif, en l'occurrence, Guillaume. Vous avez la particularité de retravailler la comptabilité des entreprises. Quel regard, à travers ce prisme particulier, portez-vous sur Edenred? Qu'est-ce que cette approche peut nous apprendre de plus sur le potentiel de cette valeur?
Alors oui, effectivement, nous sommes spécialisés dans les processus dits de normalisation comptable avec pour objectif de rendre la comptabilité plus économique et plus comparable. On cherche notamment à éviter les faux amis, les titres qui paraissent attractifs mais qui ne le sont plus après une analyse poussée des bilans et des comptes de résultats. Justement, pour une entreprise comme Edenred, nous allons, par exemple, capitaliser les dépenses de publicité, retraiter le goodwill, et tout ça va avoir un fort impact sur les ratios financiers. Si on regarde le PER d'Edenred à 13 fois en version économique normalisée, on se rend compte qu'il ressort à plus de 20 fois en valeur comptable traditionnelle. Donc il y a un gros écart entre les deux, ce qui notamment fonde aussi notre conviction sur le titre. Mais je dois aussi préciser que notre fonds via Smart Equity Europe détient à ce jour 0,5% du titre.
Merci Guillaume de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Guillaume Dolizy, le président de Via AM et Edenred, donc aux convictions positives avec vos équipes. Cette question qu'on vous pose aussi, vous tous qui nous suivez à la radio, à la télé, mais aussi sur notre fil XBFM Bourse, n'hésitez pas à vous y abonner. Cette question à l'issue de la visite de Xi Jinping en France. Estimez-vous que les groupes français finalement s'en sortent mieux que prévu, avec peut-être plus d'annonces positives et favorables à nos groupes français à l'issue de cette visite de Xi Jinping, dans le rapport entre nos groupes et la Chine? Vous êtes majorité à 70% à voter oui. Vous êtes 70% estimé qu'effectivement les groupes français s'en sortent peut-être un peu mieux que ce qu'on aurait pu espérer. On imagine que vous pensez par exemple au segment des spiritueux pour le coup, puisque ce segment à l'issue de la visite de Xi Jinping progresse bien en bourse. Pernod Ricard, Rémy Cointreau en très nette hausse, en revanche sur l'automobile, il n'y a pas eu d'annonce. Hein. Pas eu d'annonce spécifique sur l'automobile. Et Bruno Le Maire comme Emmanuel Macron se sont bornés à répéter qu'ils espéraient une relation commerciale désormais plus équitable avec la Chine. Xi Jinping qui est toujours en France là, mais qui va s'envoler pour la Serbie. Hein. C'est sa prochaine étape, la Serbie, véritable cheval de Troie chinois au cœur de l'Europe, hein, la Serbie, puisque la Chine parvient avec ses routes de la soie à y développer de plus en plus d'investissements là-bas en Serbie. Et donc, c'est la prochaine étape de Xi Jinping après ses 48 heures passées en France. Là, il était aujourd'hui dans les Pyrénées cet après-midi avec Emmanuel Macron. On imagine que le président français aurait aimé un grand soleil. Ça n'a pas été le cas. C'était une tempête de neige pour l'accueil de Xi Jinping là-bas au cœur des Pyrénées, voilà, au milieu de ce brouillard. Peut-être ce brouillard du jour qui a accueilli les deux présidents symbolise le mieux les relations désormais entre l'Europe et la Chine sur le front commercial mais aussi géopolitique. On va en reparler, hein, le bilan de Xi Jinping en France tout à l'heure, ce sera à partir de 17h avec nos experts du club.
BFM Bourse, l'écho du monde.
En attendant, quelle perspective macroéconomique pour l'Europe justement? Anthony Morlet-Lavidali nous accompagne, économiste et secrétaire général de BSI Economics. Bonjour Anthony. Anthony, êtes-vous là? Anthony n'est pas là. Voilà, lui aussi, il est dans le brouillard, dans la tempête de neige, peut-être. On essaiera de le rappeler tout à l'heure. Anthony, êtes-vous là?
Bien sûr, Guillaume.
On est ravis de vous retrouver, Anthony. Voilà, parfois, au milieu, vous savez, le jour blanc, là, au ski, on arrive parfois à distinguer des formes au loin, et vous voilà. Vous apparaissez, surgissez sur l'antenne. Anthony, les perspectives, effectivement, en Europe, on va en parler dans un instant, mais d'abord, peut-être Xi Jinping, on en parlait il y a deux secondes. Quel bilan tirez-vous de sa visite ici en France?
Et comme vous le disiez, Guillaume, c'est un petit peu le brouillard, hormis effectivement l'engagement de Xi Jinping de ne pas entraver les exportations de cognac français vers la Chine. Il y a eu assez peu d'avancées significatives. Il faut bien voir que pour l'Europe, le sujet numéro un, c'est d'arriver à se positionner sur les politiques de subvention chinoises et le problème des surcapacités qui tirent massivement les prix à la baisse. Mais sur ce sujet, Xi Jinping a été très clair, hein, je le cite, en disant « le soi-disant problème de la surcapacité de la Chine n'existe pas ». Fin de citation. Donc il y a très peu d'espace pour l'Europe pour discuter de ce problème-là. Et il faut bien voir que pour la Chine, exporter, ce n'est pas un luxe, c'est aujourd'hui son moteur de croissance. Elle en a besoin dans un contexte de consommation intérieure anémiée. Et simplement pour vous donner un chiffre, entre 2019 et 2023, les trois quarts de la croissance de la production industrielle chinoise sont partis à l'export. Seulement un quart a alimenté la demande intérieure. Donc on voit bien que pour la Chine, il y a une nécessité à exporter massivement. Alors évidemment, il existe l'argument européen qui consiste à dire on a un marché de consommation intérieure important et la Chine a besoin de nous pour exporter ses biens. Je crois qu'il ne faut pas trop surjouer l'argument, car quand on regarde l'Europe prise dans son ensemble, elle n'absorbe que 16% du total des exportations chinoise. Et c'est un plus bas historique. Dans les années 2000, c'était 22%. On voit que oui, l'Europe est clé, mais pas non plus centrale pour la Chine.
Parallèlement, alors hasard du calendrier, on a eu aujourd'hui le chiffre des exportations allemandes. Et on sait que la Chine est importante pour les exportations allemandes, mais aussi et peut-être surtout les autres pays européens. Les exportations allemandes ont plus progressé qu'attendu au mois de mars, deux fois plus qu'attendu. Comment est-ce qu'on explique ce sursaut de l'export allemand en mars ?
Alors déjà, ça vient après, c'est un contre-coup en quelque sorte, puisque ça vient après une baisse de moins 2% en février. Et je crois que sur les données de commerce international, il faut toujours prendre un peu de recul, puisqu'il y a beaucoup de volatilité au mois le mois. Et quand on dégrossit un peu la focale, on s'aperçoit que l'excédent allemand a retrouvé ses niveaux antérieurs à la Covid-19, mais c'est essentiellement dû à une faible dynamique des importations, puisqu'il compresse la demande interne, plus qu'à une forte hausse des exportations. Et même quand on regarde les exportations en volume, donc corrigées des prix, on s'aperçoit qu'elles sont toujours inférieures à leur niveau de fin 2019, et c'est tiré notamment par un pays, la Chine, où les exportations allemandes vers la Chine sont inférieures de 15% à leur niveau de fin 2019. On voit que ça devient un vrai sujet pour l'Allemagne qui est attaquée sur de nombreux secteurs industriels.
Effectivement, merci Anthony. Anthony Morlet-Lavidali, économiste et secrétaire général de BSI Economics, après ces chiffres du jour, et puis un chiffre positif pour l'Europe, là pour le coup, les ventes au détail qui, sur le dernier mois, progressent un peu plus qu'attendu. Les ventes au détail de 0,8% ici en zone euro, c'était au mois de mars, qui confirme quand même une petite reprise de dynamique en Europe. Ça fait du bien. Le CAC 40 est en progression cet après-midi, 16h25, on gagne 0,7% à la Bourse de Paris.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Et comme chaque jour à cette heure-ci, on va aussi parler d'investissement responsable et d'ESG, une thématique montante de l'investissement, mais comme tout être vivant, l'âge adulte peut signifier que désormais on entre, peut-être, on va voir, dans une phase de plafonnement. On va poser la question à Yannick Wacklin, il vient de nous rejoindre, responsable de la recherche ESG pour Bernstein Société Générale Group. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. C'est vous qui avez identifié d'ailleurs les trois âges de l'ESG et je vous demanderai tout à l'heure si on n'entre pas dans un quatrième âge, le quatrième âge de l'ESG. Déjà, le premier âge que vous avez identifié, c'est celui de l'enfance. Cet âge-là, l'enfance, cet âge-là est-il passé désormais ?
Alors, historiquement, l'ESG, on peut marquer les débuts à partir du XVIIe siècle, mais dans cette phase, on va dire, plus contemporaine, plus moderne, on peut estimer que l'enfance se termine à partir de 2005. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que jusqu'à cette date, on parlait principalement d'investissement de conviction, une approche volontaire, très peu d'informations mises à disposition de manière systématique, pas de données auditées, une difficulté de trouver à la fois des professionnels compétents, voire même des formations pour se dire compétents sur la thématique de l'investissement socialement responsable. On a vu à cette période des lancements de fonds, des fonds éthiques, des fonds d'exclusion normative, relativement peu de transparence et des investissements principalement equity sur la place des marchés.
L'enfance, c'est le temps de la naïveté, et puis ensuite vient l'adolescence et les soubresauts, parfois les excès. Est-ce qu'on est dans l'adolescence aujourd'hui ou cette phase-là aussi est passée ?
Alors, cette phase est passée aussi. On peut la dater jusqu'à, on va dire, 2020. Sur la période 2005-2020, on a vu la création de nombreuses équipes, d'agences de notation spécialisées. Les gestionnaires d'actifs ont développé des compétences propriétaires sur les démarches ESG. On a vu des bases de données, on a vu des appels d'offres qui allaient intégrer cette dimension ESG de manière systématique. On a vu, bien évidemment, une pression réglementaire. Il faut savoir que plus de 95% de la réglementation qui existe aujourd'hui, tant pour les investisseurs que les émetteurs, ont été développées après 2005. Mmh. Donc c'est quelque part l'apogée où tout un chacun cherchait à avoir un petit peu sa spécificité au sein de son processus de gestion et cherchait à se différencier, notamment à travers les attributs environnement, social, gouvernance, voire engagement actionnarial.
Ça, c'était l'adolescence jusqu'en 2020. Alors depuis, on est entré dans l'âge adulte, si je vous suis. Ça y est, l'ESG a atteint l'âge adulte. Est-ce à dire que l'ESG va désormais plafonner ?
Alors, je dirais que c'est plutôt la maturité. Où le vrai défi, ça va être aujourd'hui de démontrer la légitimité financière de la démarche. On a passé le wishful thinking, pour reprendre une expression qui n'est pas de chez nous. Certains disent même qu'on est dans de la quasi-conformité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le millefeuille réglementaire oblige à la fois les émetteurs et les investisseurs à communiquer, à intégrer de l'information. Et donc nous, en tant qu'analystes, quelque part, on a aussi cette obligation fiduciaire d'intégrer toutes ces informations et de se poser la question, mais quel est l'impact réel, notamment sur la performance, sur la gestion des risques, sur les opportunités liées justement à la prise en compte de ces nouveaux facteurs. Et si on parle de maturité, c'est là où est tout le challenge. C'est-à-dire que Aujourd'hui, on n'est plus questionné sur le pourquoi, le comment, mais on est vraiment questionné sur est-ce que vous êtes en capacité de me démontrer l'apport réel de la prise en compte de ces facteurs. Et plus globalement, on peut dire que les investisseurs, quels qu'ils soient, quelle que soit la classe d'actifs, sont des gens pragmatiques. Si on arrive à démontrer cette corrélation entre les différents facteurs, ça va être intégré. Il n'y a aucun doute.
Alors, l'âge adulte, c'est aujourd'hui. Puis ensuite, oui. Après l'âge adulte, on sera toujours adulte. Mais quatrième âge. Voilà, la remise en cause peut-être. Forme d'automne, peut-être déclin, peut-être pas. Mais enfin, de remise en cause, en tout cas. On voit aujourd'hui, par exemple, certains effets contre-productifs de l'ESG tel qu'on l'a jusqu'ici construit. On pense à, par exemple, un groupe comme Total Energy qui réfléchit à faire de Wall Street sa place principale de cotation parce que les banques, les institutionnels en Europe n'investissent plus à son capital. Et donc, les Américains montent en puissance au capital de Total Energy. Donc, un jour, peut-être, Wall Street sera dit la place principale de cotation. Est-ce qu'on se dit aujourd'hui que cette finance durable, si elle nous fait perdre en souveraineté, est d'une certaine façon aussi une finance irresponsable? Est-ce qu'il y a un peu de ça malgré tout dans l'ESG tel qu'on l'a construit?
Alors, l'ESG a peut-être grandi un petit peu trop rapidement, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'on a oublié de définir déjà que regroupe l'ESG. Parce que je pense, et on le voit au quotidien dans les interactions qu'on a avec les clients, il y a encore énormément de biais culturels. Il n'y a pas de définition, entre guillemets, légale de ce que ça doit comprendre. On voit qu'il n'y a toujours pas de standard de reporting. On voit qu'il y a une petite bataille entre l'Europe, les États-Unis et d'autres parties du monde. Et donc, quand on aura atteint une sorte de standard comme dans le reporting financier, peut-être que là, on y verra encore un petit peu plus clair et les gens ne feront pas cette différenciation de prise en compte, pas de prise en compte. Si on reste sur des axes de matérialité financière, d'intégration dans la valorisation, je pense que ça mettra tout le monde d'accord.
Merci beaucoup. L'ESG, les trois âges de l'ESG que vous avez identifiés avec vos équipes chez Bernstein Société Générale Group, Yannick Wagnin était notre invité. Merci, bon retour.
Merci beaucoup.
Bonne fin de journée. Le CAC 40 est toujours en hausse. On gagne 0,7% en ce moment à la Bourse de Paris. Si vous aimez le foot, tout va bien. Le titre Borussia Dortmund, vous savez que le club est coté aussi sur les marchés. Le titre recule aujourd'hui. Tout va bien. Ouais, sauf qu'après la demi-finale aller, le titre s'était envolé de plus de 5%. Aujourd'hui, ce titre recule à peine de 0,1%. Autrement dit, les investisseurs qui avaient investi gardent leur titre. Hein. On n'est pas en train de douter. Non, pas du tout. À quelques heures du match retour face au PSG, ce sera ce soir. Le titre Borussia Dortmund recule de 0,1%. Voilà. Alors, on peut dire oui. On peut dire ici dans BFM Bourse que le Borussia Dortmund est en train de perdre. Et perdre du terrain en bourse. On verra ce qu'il en est ce soir sur le terrain. On se retrouve nous dans un instant avec la famille BFM Bourse jusqu'à 17h. A tout de suite.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
Et la famille qui se réunit chaque jour de 16h30 à 17h, les équipes radio-télé de BFM Bourse et les équipes web. Sabrina Sadghi est avec nous. Bonjour Sabrina.
Bonjour Guillaume.
Ravi de vous accueillir.
Je suis ravi d'être là aussi.
Partagé. Voilà, je suis ravi de vous accueillir.
Moi je suis ravi d'être ici.
Je suis ravi de vous accueillir.
Moi aussi. On est en boucle.
On est en boucle.
Et
on est en
mercure au chrome.
Ben ouais, on est bien là.
On est bien ici.
Et on est en mode cette semaine sur les marchés. On est en mode Ascension,
mais oui.
Le jour de l'ascension, les marchés montent. Et ils ont pris un peu d'avance. C'est le principe des marchés, on prend toujours un coup d'avance. Et aujourd'hui donc, notre CAC 40 gagne, après la hausse d'hier déjà, 0,8% Sabrina.
0,8% et surtout, le CAC 40 est bien installé sur les 8000 points, un seuil qu'il avait échoué à préserver en clôture hier. Bon, les marchés, là, ils sont assez contents. Il y a un vent d'optimisme sur peut-être des baisses de taux de la Fed cette année. Le marché price a 60% au moins deux baisses de taux d'ici la fin de l'année sur le marché obligataire. Et ça se ressent, les taux se détendent. Est-ce que c'est l'approche des ponts à venir? Mais en tout cas, sur le 10 ans américain, on est à
4,44.
C'est difficile à dire, mais 4,44. Et on est à des plus bas d'un mois. Et sur le 10 ans français, on s'éloigne des 3%, on est à 2,93.
Incroyable, on était à plus de 3 juste avant la décision.
Exactement.
Des agences de notation. Puis là, on est à 2,93 effectivement sur le 10 ans français. On a une bonne nouvelle par ailleurs en Europe. Sur l'activité, les ventes au détail en zone euro, elles ont progressé plus que prévu au mois de mars, de 0,8%. Ça confirme le petit regain d'activité là en Europe. Oui. C'est bon ça. En revanche, j'ai une mauvaise nouvelle. Sabrina.
Dites-moi.
Ferrari recule.
Sortie de route.
Le titre perd 2,5%. Pourtant, la publication est pas mal. Franchement, elle est super aux attentes. Mais sur les prévisions de vente, déception de marché. En fait, les prévisions ne sont pas rehaussées. Elles sont juste maintenues. Le marché, sur ces niveaux-là de valorisation, devient beaucoup plus exigeant.
Exactement.
Et donc, même si la publication est bonne et même si les prévisions sont maintenues, le titre perd 2,5% Ferrari.
Il ne regarde pas dans le rétro. Il préfère regarder en fait.
Oh, quel incroyable. C'est Jean-Louis Cussac qui nous appelle. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour.
Depuis les bureaux de Perceval. Bon, aujourd'hui, on est en hausse donc sur le CAC. Nouvelle progression de 0,7%, 8059 points. Quels sont, à vos yeux, Jean-Louis, les prochains seuils techniques sur l'indice?
Pour l'instant, le moteur qui pourrait nous permettre de poursuivre d'une manière ferme, claire, nette, et c'est pas évident. Alors, Sabrina a indiqué le moteur, c'était les taux, ce sont les taux. Évidemment, la confiance, d'ailleurs, dans la capacité de la Fed à baisser ses taux directeurs et remonter, évidemment, ces derniers jours. Ça provoque la hausse, notamment, de marché US. Nous, on suit. Bon, après, les résultats des entreprises sont bons. Vous voyez, tout est allé dans le sens que le marché ne peut pas baisser. Alors, mais il y a quand même beaucoup d'hésitations. Ce matin, on est parti à la hausse à 10 heures. On a fait un point haut. Derrière, on a perdu 0,6. Et là, on remonte à nouveau en cette fin de séance. C'est pas simple, mais bon, c'est vrai que revenir sur 8200, c'est assez facile d'y aller. C'est pas très loin. Bon, il y a toujours les dividendes, faut faire attention parce qu'il va y avoir encore de nombreux dividendes d'ici le mois de juin. Enfin, il y en a encore un peu en mai et ensuite en juin. Là, on voit que ce sont des valeurs. Et vous l'avez indiqué d'ailleurs, Guillaume, au départ, en disant oui, il y a des valeurs mal aimées. Voilà, c'est comme ça que vous l'avez signalé, qui remontent. Et c'est vrai. Moi, je disais que vraiment, parce que peut-être qu'on manquait d'idées et que les indices et les stars étaient déjà bien payés, donc en effet, on venait chercher des Pernod, des STM, des Téléperformances. Bon, il y a toujours les bancaires qui montent, mais ce marché, il donne aucun signe de faiblesse. Vous voyez, et je l'ai signalé, même quand ça a baissé, je vous ai dit, je vois pas le marché baisser pour l'instant. On a plutôt des décalages de prix. C'était vraiment des acheteurs qui se reculaient, mais rien de méchant. La volatilité implicite, elle reste toujours à peu près identique. Donc, on reste acheteur. On essaie d'aller, à la pêche aux bonnes affaires, par exemple, comme Dassault Systèmes, là, qui stabilise depuis 8 jours, qui a beaucoup baissé, pour faire partie des valeurs qui se reprennent. Donc voilà, on garde ce côté positif.
Parmi les publications, parce qu'on en a quelques-unes aujourd'hui, Bouygues se distingue, alors pour le coup se distingue à la baisse, hein, sur l'immobilier, Bouygues déçoit, sur l'énergie c'est un peu mieux, mais la branche énergie ne compense pas la déception immobilière chez Bouygues, le titre perd 1,3%. Techniquement, ce titre envoie un signal intéressant pour la suite, Jean-Louis?
Le signal intéressant, c'est qu'il faut l'acheter quand ça baisse. Je pense pas que... vous savez, il y a plusieurs facteurs. Elle a perdu jusqu'à 5% tout à l'heure. Okay, là, elle perd plus que 1,3. Donc, il s'est déjà passé quelque chose. Elle a rebondi fortement. Les perspectives sont quand même bonnes. Les performances des courants de Bouygues Télécom sont bonnes. Les feuilles de route sont respectées. Bon, c'est juste l'immobilier. Bon, mais ça, c'est pas une surprise. Tout le monde sait que l'immobilier ne va pas bien. Sur le plan technique, si vous voulez, il y a tout pour qu'elle puisse continuer à moyen long terme sur un objectif de 39 euros. Et je pense que il faut là aussi aller à la chasse aux bonnes affaires quand la valeur baisse. Alors, ben voilà, ce matin, il y avait une affaire à faire, peut-être. Mais en tout cas, oui, on peut dire oui à l'instant T, puisque 3,65, on est repassé à 34,90. Mais pensez-y, je dis ça aux auditeurs, de noter les valeurs à acheter sur des replis au rendement important, 5,4%. Il a été distribué le 30 avril. Mais voilà, c'est le genre de valeur où, en plus, la famille Bouygues achète régulièrement des titres. Et c'est vraiment une belle société.
Jean-Louis Cussac, on trouvera la clôture des marchés tout à l'heure. Ce sera à 17h35 depuis Perceval. Merci beaucoup, Jean-Louis. Et notre CAC 40 aujourd'hui en hausse de 0,8%. Voici venu l'heure, il est 16h38, de la question du jour. Cette question qu'on vous pose sur nos réseaux sociaux. Notre fil XBFM Bourse, notre fil LinkedIn aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, il n'est pas trop tard. N'hésitez pas à vous abonner. La question du jour, elle concerne à nouveau la visite de Xi Jinping en France, qui se termine aujourd'hui. D'ailleurs, il est avec Emmanuel Macron dans les Pyrénées, là, sous une tempête de neige.
Enfin, ah oui?
À tempête de neige totale. Brouillard absolu. On imagine qu'Emmanuel Macron espérait peut-être une tempête de ciel bleu. Ben là, c'est une tempête de neige qui accueille le président chinois. Ouais. Peut-être à l'image des relations entre l'Europe et la Chine. Hein. Il y a le brouillard, peut-être. Là, voilà, effectivement. Bon, en tout cas, ça avait l'air assez glacial. Et là, Xi Jinping va s'envoler pour la Serbie, en l'occurrence, un pays très proche de la Russie, politiquement. Bref. Xi Jinping, donc, qui achève sa visite en France. La question du jour. Selon vous, les groupes français s'en sortent-ils mieux que prévu à l'issue de cette visite? Est-ce qu'ils ont obtenu peut-être un peu plus que ce qu'on aurait pu espérer avant la visite de Xi Jinping? La réponse, c'est oui ou c'est non? Vous êtes nombreux à voter. Dans un instant, on fera part du résultat à nos auditeurs et téléspectateurs. Pour vous, Sabrina, en tout cas. Votre point de vue personnel, c'est qu'à l'issue de cette visite de Xi Jinping, oui, les groupes français s'en sortent mieux qu'on aurait pu l'espérer ou pas?
Alors oui, surtout sur les spiritueux, on a eu quand même la super bonne nouvelle. Déjà, on l'avait évoqué hier, hein, comme quoi la Chine est un important marché pour les groupes de spiritueux, notamment pour Rémy Cointreau et son cognac Rémy Martin. Et on le voit, hein, la réaction en bourse de Rémy Cointreau, hein, qui gagne plus de 8%, je ne sais pas si vous me confirmez ou pas, Guillaume, mais en tout cas, Pernod Ricard, en contraire, gagne que 2,5% parce que c'est quand même hyper important pour Rémy Cointreau. Odo BHF nous rappelle que le cognac en Chine pèse en proportion du chiffre d'affaires 3 fois plus chez Rémy Cointreau et représente 25% du chiffre d'affaires du groupe, là où chez Pernod Ricard, il ne représente que 8 à 9% oui. du chiffre d'affaires du groupe.
Ça explique peut-être pourquoi Rémy Cointreau gagne 2 fois plus, réagit 2 fois plus que Pernod Ricard en bourse aujourd'hui.
Et LVMH beaucoup moins, hein, parce que LVMH aussi a son cognac, c'est NSI. Et là, LVMH doit gagner 0,3%. Oui, pas grand-chose. Hein. Donc, on voit bien la réaction en bourse. En tout cas, pour Rémy Cointreau, c'est vraiment un soulagement pour le groupe.
5,5% la hausse de Rémy Cointreau, effectivement. Alors, attention, il ne faut pas s'emballer. Hein.
Non.
D'abord, parce qu'il n'y a rien de complètement officiel sur le fait que, effectivement, les acteurs du cognac échapperaient à des taxes douanières chinoises. Et par ailleurs, ce serait en attendant, s'ils échappent à des taxes douanières chinoises, en attendant le résultat de l'enquête anti-dumping.
C'est ça. Mais voilà. Ils gagnent surtout moins que quand il y a eu cette annonce en janvier. Ils avaient perdu 10%. Donc
c'est vrai, effectivement. Voilà. Alors, on est content, tant mieux pour les acteurs des spiritueux, effectivement, qui aujourd'hui s'en sortent à l'issue de cette visite de Xi Jinping par le haut, des valeurs en hausse. Rémy Cointreau plus 5,5%. Pernod Ricard gagne 3%. Tant mieux pour ces acteurs. En revanche, dans l'univers automobile, on n'a rien obtenu. Enfin, rien n'est sorti de cette visite de Xi Jinping. Et pourtant, ce sont nos acteurs automobiles qui sont les plus menacés par la concurrence chinoise. Il n'y a rien de nouveau là-dessus. Bon, dans le tourisme, il y a eu de bonnes nouvelles, tiens, pour les acteurs du tourisme et de l'aéronautique. La Chine qui rallonge jusqu'à fin 2025 l'exemption de visa pour les Français qui souhaitent voyager en Chine. Puis en échange aussi, la France va faciliter le voyage des Chinois en...
Il y a toujours des contreparties.
Voilà, il y a toujours des contreparties, effectivement. Alors, vous aussi, vous avez voté. Et vous avez choisi à 71% de voir les choses en vert. Oui, vous estimez à 71% que nos groupes français s'en sortent peut-être un peu mieux qu'on aurait pu l'espérer à l'issue de cette visite de Xi Jinping, avec peut-être un peu plus de bonnes nouvelles pour eux qu'on aurait pu l'espérer avant cette visite. À 71%, c'est votre vote. Et à 29%, vous estimez que non. Vraiment pas de bonne surprise à l'issue de cette visite de Xi Jinping. On en parlait justement du bilan de Xi Jinping en France avec nos experts dans l'Écho du Monde. C'était à 16h15, les experts de BSI Economics. Si vous avez raté le direct, le replay, le podcast sont disponibles sur notre application BFM Business. Et d'ailleurs, on en profite au passage pour remercier tous ceux qui nous suivent. Alors bien sûr, à la radio, à la télé, mais aussi en replay et podcast, parce que BFM Bourse voit son nombre de téléchargements au mois d'avril, on a eu le chiffre tout à l'heure, progresser de 135%.
Merci.
Voilà. Un immense merci à vous tous. 319 000 téléchargements pour les replays et podcasts de BFM Bourse en avril. Ouais. C'est le deuxième meilleur mois historique de BFM Bourse.
Ah, génial.
Voilà. Un immense merci à vous tous. Du fond du cœur. Allez, des valeurs qui se distinguent aujourd'hui à Paris. Vous avez repéré Ubisoft?
Oui.
Plus 3% Ubisoft. Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? C'est que, il y a Stifel qui a relevé son opinion à l'achat et son objectif de cours. Il le porte à 28 euros. Alors, qu'est-ce qui justifie l'optimisme du bureau d'études sur le titre?
Qu'est-ce qui justifie cet optimisme?
Qu'est-ce qui justifie cet optimisme? L'analyse de Stifel est enthousiasmée par la visibilité croissante du pipeline de jeux d'Ubisoft, hein, et qui comprend deux des jeux les plus attendus en 2024, sur l'année calendaire 2024. Il cite donc Star Wars Outlaws, hein, le jeu tiré de la franchise et du film Star Wars, et dont la sortie est prévue le 30 août prochain. Et les premières images du jeu qui avaient été dévoilées l'année passée avaient fait forte impression auprès de la presse spécialisée. Il y a aussi Assassin's Creed Codename Red, dont la sortie est prévue fin 2024, début 2025, selon nos collègues de Tech & Co. Et pour Stifel, ce jeu constituera le prochain volet de ce qui est, à son avis, la plus grande et la plus importante franchise d'Ubisoft. Surtout, l'arrivée de ses titres les plus attendus de l'année arrive à un moment plutôt pauvre en la matière. Donc, ce qui va profiter à Ubisoft. À Ubisoft, tout à fait. Ouais. Et donc, l'autre argument mis en valeur par Stifel, c'est la valorisation qui est assez faible.
On est à combien en valorisation sur Ubisoft?
On est à 11,7 les bénéfices attendus pour l'exercice clos en 2025, ce qui est quand même c'est plutôt proche de ses plus bas historique sur 20 ans, alors que les concurrents cotés, ils sont à 20, une moyenne de 20.
Donc deux fois moins valorisés que ses concurrents Ubisoft. Incroyable. On dirait Total face au pétrolier américain. Deux fois moins coté pareil. Bon, est-ce que ce soutien de Stifel, là, maintenant, aujourd'hui, il tombe bien? Dans quelques jours, Ubisoft va publier ses résultats.
Oui, dans une semaine, le 15 mai exactement, Ubisoft va publier et on espère peut-être que les derniers opus qui ont porté, les dernières sorties, hein, qui ont été, vont porter donc le bénéfice opérationnel en données IFRS de 400 millions d'euros d'ici la fin de l'année. Hein, les analystes ont déjà fait de leur côté leur pronostic. Deutsche Bank retient un résultat opérationnel de 390 millions d'euros et jugé à mi-avril qu'au vu de la faiblesse de l'action, le marché a probablement peut-être anticipé un petit raté sur cet objectif. Et UBS remarque de son côté que les investisseurs seront attentifs aux perspectives qu'Ubisoft formulera pour l'exercice en cours.
Ubisoft gagne aujourd'hui 4%, une des stars de ce marché parisien. On parlera aussi dans un instant du secteur financier et bancaire. Encore de superbes publications aujourd'hui sur le secteur bancaire. Il est en train de se passer quelque chose dans l'univers bancaire. Juste avant d'en parler dans quelques minutes, puisqu'on est dans les jeux vidéo.
Oui.
Nintendo a communiqué ce matin, a promis en tout cas une annonce pour ce qui succédera à la Switch. Voilà, la Switch commence un peu à vieillir, on se demande ce qui va succéder à la Switch. Là-dessus, Nintendo a promis une annonce à venir, mais bon, pour l'instant on n'en sait pas plus, mais il y a un calendrier en tout cas.
Il y a un calendrier, alors ce ne sera pas pour tout de suite sur l'annonce pour le successeur de la Switch. Il faudra attendre encore un peu de temps, un peu moins d'un an, mars 2025, pour avoir des détails sur cette, on va l'appeler la Switch 2, on n'a pas son nom définitif. Les attentes, elles sont élevées pour cette console destinée à remplacer la Switch, qui est sortie en mai 2017, ça fait plus de 6 ans maintenant, même 7 ans, ouais. Comme le temps passe.
C'est-à-dire que quand on passe sa vie à jouer aux jeux vidéo, le temps
c'est
passe
ça.
Vite.
Ouais, ouais. Le temps passe. Là, on est à 7 ans et elle s'est écoulée à 141 millions d'exemplaires, ce qui en fait la troisième console la plus vendue derrière la PlayStation 2 et la Nintendo DS.
Et donc, d'ici un an, on saura quel sera le profil de cette console qui succédera à la Switch. Effectivement, de Nintendo. Le CAC 40 est en hausse, plus 0,7%. Si vous cherchez des idées de valeur pour compléter vos portefeuilles, c'est chaque jour 16h15. Valeur ajoutée, une idée de valeur en plus. Et tout à l'heure, nos experts de Via AM nous ont dit être positifs sur Edenred. Wow, un titre qui souffre depuis son entrée au CAC 40. Eux, ils estiment qu'il y a un bon timing là pour pourquoi pas se positionner sur Edenred. Si vous avez raté le direct, le replay, vous le savez, disponible sur notre application BFM Business ou encore sur notre site BFM Bourse. 16h47, voici venue l'heure tant attendue du bullshitomètre. Chaque jour, un expert de marché vient déconstruire une idée reçue, un consensus de marché un peu trop facile. Aujourd'hui, c'est Aymeric Didet qui nous accompagne, le directeur de la gestion de Pergam. Rebonjour Aymeric.
Rebonjour.
Rebonjour puisque vous nous accompagnez en fil rouge aujourd'hui. La hausse des taux, cette hausse des taux ces derniers mois a redonné de l'attrait au marché obligataire. On voit d'ailleurs à nouveau des fonds à échéance arriver sur le marché. Là, une deuxième vague qui est en train d'arriver. Mais tous ces fonds obligataires, faut bien le dire, c'est réservé aux professionnels. L'obligataire reste en effet un marché extrêmement compliqué pour les particuliers. En tout cas, c'est ce qu'on entend souvent. Mais vous n'êtes pas d'accord. Vous dites même bullshit. Vous foudroyez. Cette idée que l'obligataire serait trop complexe pour les particuliers. Va falloir argumenter, parce que c'est vrai que c'est complexe quand même, l'obligataire. Quand les taux baissent, ça vous rapporte plus d'argent, c'est pas très naturel. La sensibilité, les spreads de crédit, c'est tout ça l'univers obligataire. Mais vous dites non, c'est accessible quand même aux particuliers.
Exactement, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un marché beaucoup plus gros aujourd'hui que le marché action, parce qu'il y a beaucoup plus d'émetteurs. On peut avoir des États qui émettent comme des entreprises. Oui. Donc évidemment, c'est un marché extrêmement large. Mais ça veut pas dire que c'est inaccessible. Oui, c'est plus compliqué. Oui, il y a des freins. Évidemment, pour l'investisseur particulier, mais il faut arrêter de penser que c'est un marché dans lequel on ne peut pas investir. Donc c'est ça dont on va parler un petit peu aujourd'hui.
Même si, par exemple, les conseillers en gestion de patrimoine qui viennent régulièrement ici sur BFM Business le matin, tout pour investir avec Lorraine Goumeau, 10h midi, les conseillers en gestion de patrimoine disent souvent, quand vous ne comprenez pas ce dans quoi vous investissez, quand vous voyez que c'est trop complexe pour vous, n'y allez pas. Toujours comprendre ce dans quoi on investit.
Ça c'est très vrai, mais par contre qu'est-ce que c'est qu'une obligation? C'est de la dette. Tout le monde sait ce que c'est qu'emprunter de l'argent, de la dette, donc en fait, oui, si, c'est compréhensible. Donc ça aussi, il faut arrêter de penser qu'on n'est pas capable de comprendre ce dans quoi on investit. On achète de la dette d'entreprise quand on achète une obligation d'une entreprise, donc on connaît l'entreprise, Donc déjà, si on comprend l'entreprise, on voit déjà ce dans quoi on investit. Mais quand c'est de la dette d'entreprise, bon ben voilà, on sait qu'on prête de l'argent à l'entreprise et qu'on va être rémunéré par un coupon qui va augmenter chaque jour. C'est le coupon couru qui sera distribué à une date définie.
C'est presque une rente. C'est presque une rente.
Exactement. Oui. Exactement. C'est un métier dans lequel on a une meilleure, quelque part, prédictibilité des rendements futurs. Donc ça a beaucoup d'intérêt de s'intéresser au marché obligataire.
Mais il faut au minimum avoir un gros capital. Les tickets d'entrée parfois sont supérieurs à 100 000 euros. C'est pas accessible à tous les particuliers, Aymeric.
Alors en effet, quand on veut le faire en direct, c'est sûr qu'il peut y avoir des freins. C'est ça qui est important. Si on veut faire de l'investissement en direct, en obligation, les souches obligataires, notamment les souches obligataires d'entreprise, peuvent avoir des minimums d'investissement qui sont souvent de 100, 200 ou 500 000 euros. Donc en effet, c'est problématique quand il faut mutualiser son risque, ce qui est très important, y compris dans le marché obligataire. Mais heureusement, les financiers ont pensé à tout. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de produits financiers qui permettent d'aller sur le marché obligataire. Et c'est là où on en revient à tout ce métier qui a été organisé par les banques, les sociétés de gestion, les assureurs, qui ont créé ces véhicules d'investissement qui permettent d'investir dans le marché obligataire. C'est ce qu'on appelle évidemment les ETF, ou les OPCVM, les SICAV, qui permettent d'investir sur plein de typologies d'obligations.
On voit la créativité financière n'a pas de limite. Bon, en tout cas, on dit souvent que l'obligataire est moins risqué que les actions, mais comme les actions, il y a quand même plusieurs paliers de risque concernant l'obligataire.
Oui. Ah, mais totalement, attention, et ça c'est une fausse bonne idée de se dire que l'obligataire n'est pas du tout risqué. Parce que quand vous avez les taux qui montent, le nominal de vos obligations baisse, donc la valeur de vos obligations baisse par rapport à la veille. Donc en effet, ce sont pas des produits garantis. Attention, ça c'est très très important. Par contre, il y a des obligations qui sont plus ou moins risquées. Il y a évidemment différents seuils. Si on va sur une obligation d'un État très bien noté, parce qu'on a les agences de notation qui nous notent les émetteurs les uns par rapport aux autres, ou les pays les uns par rapport aux autres, donc il y a plus ou moins de risques. Mais quand on va sur des obligations d'État bien noté, évidemment, on aura peut-être moins de rendement, mais on a une meilleure prédictibilité des rendements futurs. Donc ça, c'est le premier point. Après, il y a plein de typologies d'obligations, parce que vous avez les États, vous avez les entreprises, vous avez des entreprises dans certains pays, qui peuvent être des pays sur des pays émergents. Donc en effet, il y a différentes typologies d'émetteurs. Vous avez aussi différentes maturités, parce que vous pouvez prédire quelque part avec une meilleure prédictibilité de votre rendement à court terme, donc du coup avoir un petit peu moins de rendement, comme avoir une moins bonne visibilité sur les rendements à long terme, donc du coup des rendements supérieurs. Donc c'est là où on voit la courbe des taux qui peut être plutôt ascendante quand on va chercher des maturités plus longues. Ça, c'est la logique obligataire. Donc c'est tout ça qui rend ce marché un tout petit peu plus complexe, mais accessible. Encore une fois, les financiers ont créé des produits pour répondre à ces problématiques-là, par exemple avec les fonds à échéance. Quand on voit des maturités, par exemple, 2029, et qu'on voit, par exemple, un rendement cible de, je vais dire n'importe quoi, 5,5%, par exemple, bon ben voilà, s'il n'y a pas de risque de défaut, ben on s'engage quelque part, si on n'a pas besoin de son capital et qu'on veut le garder, ben avoir cette typologie de rendement.
On a d'ailleurs... 2029.
Donc voilà,
une nouvelle vague là, de fonds échéance qui est en train d'arriver sur le marché depuis 2-3 semaines, effectivement. Il y en avait eu une première il y a un peu plus d'un an. Là, voilà, il y en a une deuxième vague qui arrive parce qu'il se trouve que les taux obligataires restent peut-être plus élevés que ce qu'on avait imaginé, un peu plus attractifs. Il y a toujours une fenêtre qui reste ouverte, qui finira sans doute par se refermer quand les banques centrales vont baisser leurs taux, mais elle reste ouverte pour l'instant.
En attendant, elle est ouverte et ça donne énormément d'intérêt à cette classe d'actifs qui n'avait rien fait, qui était totalement oublié, qui était presque devenu ininvestissable. Oui. Il n'avait aucun intérêt pour le particulier ces dernières années. Mais aujourd'hui, c'est une même classe d'actifs qui doit avoir une place majeure.
Mais comment on fait ? Enfin, je suis un particulier, je vous écoute. Comment je fais pour investir dans l'obligataire ? Et surtout, sur quelle catégorie d'obligations, compte tenu du contexte, des perspectives macroéconomiques, est-ce qu'il faut aujourd'hui aller, d'après vous ?
Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant aujourd'hui ? Pas forcément les États, parce que c'est ce qu'il y a de plus sécuritaire, mais c'est ce qui rapporte le moins. Donc, ou en tout cas pour les États bien notés. Donc là-dessus, on va éviter. Par contre, les obligations d'entreprise, c'est là où il y a les meilleurs gisements, le meilleur couple rendement-risque. Pas forcément les moins bien notés, parce que ce qu'on appelle le haut rendement est quelque part trop cher quand on regarde la valorisation de cette typologie d'actifs. Par contre, la catégorie entreprise bien notée 3 à 5 ans, c'est là où il y a quelque part la meilleure stabilité potentielle de rendement pour les prochaines années. Donc ça correspond finalement à des rendements de 2028-2029. Mmh. Donc quand on cherche des fonds à échéance, ça peut être cette typologie de maturité qu'on peut aller rechercher, donc 2029 par exemple, et avec des obligations d'entreprise bien noté, c'est-à-dire ce qu'on appelle la catégorie investment grade, et avec, on peut toujours avoir dans ces fonds-là une petite catégorie de high yield, mais elle doit être limitée pour pas mettre son capital à risque non plus de manière trop importante. Donc c'est ce genre de fonds que nous, en tout cas, on privilégie. Donc par exemple un 2028 ou un 2029 sur la catégorie obligations
d'entreprise. Parce qu'il y en a de nouveaux là, des fonds échéances qui viennent concurrencer les vôtres. Hein. Mais nous en parlons.
Il y en a beaucoup.
Il y en a de nouveaux, 2030, 2031, ça commence à arriver là.
Bien sûr, parce que plus on avance dans le temps, et plus finalement ça a de l'intérêt, surtout en ce moment, de repousser ces maturités. C'est-à-dire que les fonds à échéance, on a commencé il y a à peu près il y a 2 ans et demi à remettre des fonds à échéance. Il y a 2 ans à remettre des fonds à échéance dans les portefeuilles. Mmh. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ceux-là, il est temps de les rouler sur des échéances plus longues.
Aymeric Didet, le directeur de la gestion de Pergam, bullshitomètre à retrouver dans quelques minutes en replay, en podcast sur notre site BFM Bourse, notre application BFM Business. La famille se poursuit. Vous nous accompagnez, Aymeric, vous restez avec nous
si vous voulez.
Ah avec plaisir. On vous engage à rester avec nous. Effectivement, on vous engage dans la famille. Voilà.
Voilà.
Si. Avec le Facteur X, tiens, on vous suit, on vous scrute, vous aussi qui nous regardez à la télévision, à la radio. Enfin, qui nous regardez à la radio. Pourquoi pas ?
Pourquoi pas ?
Pourquoi pas,
pourquoi
finalement
pas ?
Voilà, pourquoi pas. On vous scrute sur les réseaux sociaux. Et chaque jour, on met en valeur, on met en avant les posts à forte valeur ajoutée que vous publiez sur le réseau X ou encore sur LinkedIn. Aujourd'hui, on a repéré ce post de Valentin Offrand, qu'on aime bien suivre, et qui a repéré Valentin Offrand. Une valeur, c'est une banque, une grande, une immense banque européenne qui en bourse fait aussi bien qu'Nvidia. Sur 3 ans, la performance de cette banque est comparable à celle d'Nvidia. Et l'intelligence artificielle, toute cette histoire, story autour de l'intelligence artificielle. Mais en termes de performance boursière, il y a une banque qui fait aussi bien qu'Nvidia. C'est qui ? C'est UniCredit. Sur 3 ans, le titre gagne plus de 400%, Sabrina.
Ah oui, c'est la revanche de l'ancien monde. Hein. C'est vrai que UniCredit aussi, on n'en parle pas par hasard parce qu'ils ont publié des résultats supérieurs aux attentes, un bénéfice en hausse de 24% qui est supérieur aux attentes grâce au rebond des taux d'intérêt. Hein. Ça, c'est clair et net que les taux d'intérêt ont fait beaucoup de bien aux banques européennes.
Voilà. Oui. 400% la hausse d'UniCredit sur le marché, qui revenait de loin quand même,
qui revenait
sur le marché
très
italien.
Loin.
Voilà, plus 400 à comparer au plus 480 d'NVIDIA. Incroyable, les briques, quand même.
Ah, mais c'est super. Mais c'est super parce que justement, ces hausses de taux d'intérêt, ça a redonné de l'intérêt à tout le secteur bancaire. Savoir que ça a permis d'avoir. Donc, quand on a des taux qui sont plus élevés, ça permet aux banques de faire leur vrai métier. Le vrai métier d'une banque, c'est le métier de la transformation. C'est donc de prêter à long terme avec des taux qui sont plus élevés et de se refinancer à court terme avec des taux plus courts et des taux plus bas. Donc aujourd'hui, les banques peuvent refaire leur métier qui est de transformer quelque part, faire de la transformation bancaire par l'émission de prêts. Donc aujourd'hui, on le voit, ça se traduit dans les marges des banques et donc dans les résultats au final de ces grands groupes qui aujourd'hui étaient valorisés à des niveaux extrêmement faibles depuis de nombreuses années. Donc aujourd'hui, la hausse est clairement méritée pour tous ces.
Et alors, le secteur reste sous-coté hein, par rapport au reste. On est en moyenne, le PE du secteur bancaire à 7 à peu près, à peine 7 en Europe.
À peine. Ouais. L'avantage, c'est qu'en plus, ce sont des groupes qui donnent énormément de dividendes, donc qui rémunèrent l'actionnaire. On le rappelle, hein, le rendement avec le dividende, ça, c'est ce qui permet à l'investisseur d'être rémunéré pour l'investisseur en actions. Mmh. Donc, aujourd'hui, c'est primordial d'aller choisir, surtout en cette période, des actions qui versent des dividendes.
Et bravo à Valentin Offrand, donc, ce poste très intéressant. Oui, bien vu, effectivement. Plus de 400% de hausse, c'est équivalent à Nvidia depuis 3 ans pour une grande banque européenne, UniCredit. On ne parle pas là d'une toute petite banque régionale.
Non, c'est la deuxième plus grande banque italienne.
Effectivement, ouais. Wow, impressionnant. Aujourd'hui, on a UBS aussi qui a publié ses résultats et qui renoue avec les bénéfices. UBS, pour la première fois depuis le rachat de Crédit Suisse. Ben oui, c'est pas rien. Le titre UBS gagne à Zurich 8,5%. Et notre chiffre du jour, c'est aussi une question de performance financière, performance boursière. Plus 30% depuis le mois d'octobre. On parle là d'un secteur mal aimé du
marché. Encore. Ouais. On aime bien parler des secteurs mal aimés après la banque.
Parce qu'ils rebondissent, ces secteurs-là.
Eh oui, c'est le secteur des foncières. Hein. C'est l'Eurostox 600 Real Estate. Hein. C'est un panier de valeurs qui comprend, par exemple, Unibail Rodamco, Vonovia en Allemagne. Et le point de départ de ce rebond, bien sûr, c'est les anticipations de baisse de taux qui fait du bien à ce secteur mal aimé et qui a vraiment souffert. Hein. D'ailleurs, entre novembre 2021 et octobre 2022, cet indice avait fondu de 50% à cause de la remontée des taux d'intérêt qui fait très, très mal au secteur des foncières.
Les foncières, ça vous plaît, Aymeric, vous avez envie d'y aller ou vous...
Dur. Non, ouais, pas, dur. Encore, pas encore.
Mais les taux vont baisser, pourquoi vous dites pas encore?
Pas encore, parce que c'est un secteur qui aujourd'hui fait face à de multiples problématiques. Les taux d'occupation sont pas bons et doivent aussi un petit peu se réinventer. Ils ont pas encore réussi à passer, tourner la page Covid. Il y a beaucoup, beaucoup de défis pour le secteur de l'immobilier et les taux élevés... Il va vraiment falloir qu'il y ait une belle... Il n'y a pas eu de revalorisation en fait, des valeurs. Donc aujourd'hui...
Mais j'imagine, Aymeric, que vous disiez ça aussi il y a 6 mois. Et depuis, le secteur a fait plus 30%.
Oui, mais c'est encore l'un de ceux qui, depuis le début de l'année... Il a fait un énorme rebond, mais depuis le début de l'année...
Ça se tasse un peu.
Ça se tasse un peu. Donc ce n'est pas du tout le meilleur secteur pour le moment. Enfin, en tout cas, pas celui qu'on mettrait en avant pour investir.
On parle franchement en famille.
Ouais.
Moi, ça a le mérite d'être clair.
Merci à tous les deux. Aymeric Didet, directeur de la gestion de Pergam, et donc ce bullshitomètre. Merci Aymeric d'être régulièrement à nos côtés sur BFM Business. Je ne sais pas si vous aimez le foot, ce soir il y a le match retour. Hein.
Ouais. Regardez évidemment.
Borussia Dortmund, le titre depuis le match aller où Borussia Dortmund avait gagné face au PSG, le titre a gagné 5%. Bah, aujourd'hui, à quelques heures de la demi-finale retour, aujourd'hui le titre recule. Ah, est-ce que c'est un signe?
Bonne anticipation.
Ouais. Nous en tout cas, on l'espère.
On l'espère.
Nous en tout cas, dans BFM Bourse, c'est peut-être le seul endroit où vous entendrez ça aujourd'hui, on peut dire que Borussia Dortmund perd. Père du terrain en bourse. On verra ce soir sur le terrain pour le coup du football.
Bravo.
Merci Sabrina.
Merci Guillaume.
Et les équipes web BFM Bourse qui nous accompagnent aussi chaque jour. Dans un instant, on va mesurer le potentiel global des marchés. Puis vous pourrez aussi retrouver cet article consacré à Ubisoft. Le titre gagne 4%. L'article est consultable sur notre site bfmbourse.com. A tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.